Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h03, nous sommes déjà de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Vous le savez, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Soyez bien avec nous. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Merci de votre fidélité. Bon dimanche matin à vous. Nous sommes toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Marc Madiot. Simon Dutin, si vous avez raté les deux premières heures, déjà c'est pas bien. Mais c'est pas grave, parce qu'il existe une solution maintenant. Nous sommes en 2022, incroyable, il y a les podcasts. Donc n'hésitez pas à aller nous télécharger, car nous faisons une grande émission, je tenais à vous le dire. Mes petites GG. Dans quelques instants, le bras de fer, notre nouvelle séquence cette saison dans les grandes gueules du sport. Le thème du jour, Olivier Giroud. Est-il indispensable pour la Coupe du Monde? Il y a une team indispensable, une team pas indispensable. À 11h30, vous adorez cette séquence, c'était mieux avant. Christophe Cessieux nous raconte un moment d'histoire. 21 septembre 1948, il y a 74 ans, Marcel Cerdan devenait champion du monde de boxe.
Introducing from Casablanca, Morocco, wearing white trunks, Marcel Cerdan.
Marcel Cerdan, l'histoire racontée par Christophe Cessieux à partir de 11h30. Baissez la lumière, s'il vous plaît. Les artistes entrent dans l'arène. C'est l'histoire d'un roc, d'un pic, d'un cap, voire d'une péninsule. L'histoire d'un homme qui n'abdique jamais. Alors que l'équipe de France commençait à tracer sa route vers le mondial sans lui, voilà qu'il revient, encore, et encore, et encore, au centre des débats. Olivier Giroud a marqué les esprits jeudi face à l'Autriche et inscrit au passage son 49e but en bleu, revenant à deux longueurs de Thierry Henry. Une prestation remarquable, remarquée, à tel point que Kylian Mbappé l'a adoubé après la rencontre.
Quand t'es le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, si t'es pas un plus, tu seras jamais un plus. Hein. C'est un plus, c'est normal.
Est-il indispensable pour le mondial? C'est la question difficile du bras de fer des GG. Dans le coin gauche, la team indispensable. Simon Dutin, Cyril Marais. Dans le coin droit, la team indispensable. Christophe Cessieux, Marc Madiot. C'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Vous pouvez déjà voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport.
C'est fait.
Indispensable.
Il n'y a pas de débat.
Pas
ça,
indispensable.
Ça prouve déjà que t'as peur, Christophe.
Ouais, non, mais attends.
Ça prouve que t'as peur déjà.
83 contre, pour indispensable.
Ah, tu lui gâches son effet.
Ouais, non, mais attends, il n'y a pas match là.
Il ne veut pas d'effet.
Il nous envoie au feu là.
Il ne veut pas d'effet. Team indispensable, 83%. Eh, mais si on avait posé cette question mercredi, ce serait peut-être un point de votre argumentation, je ne sais pas. Team pas indispensable, 17%. Évidemment, il est de coutume de commencer par ceux qui sont derrière. Et largement derrière pour ce bras de fer. Team pas indispensable. Christophe Cessieux, Marc Madiot, vous débutez. Je sens que Marc est déjà dans son match. Il a envie d'affronter les deux kikis, hein, si je peux les appeler les deux kikis. Le bras de fer des GG, c'est maintenant. Marc Madiot, pourquoi pas indispensable?
On jouait contre qui mercredi?
L'Autriche.
C'est qui?
Bah, c'est une nation.
Fort en ski, hein, l'Autriche.
Oui, très fort en ski. Ils ont eu des bons pilotes de Formule 1 aussi.
Ouais. Ok, mais
non, bon, à un moment, il faut quand même être sérieux. Alors, Giroud, grand joueur. Grande carrière. Longévité dans la carrière. Professionnel. Sérieux, appliqué. Mais de là à le rendre indispensable pour l'équipe de France, je dis non. Parce que le temps passe et on a oublié notre petit copain qui joue au Real de Madrid quand même.
Karim Benzema.
Karim Benzema. Donc si Benzema avait été là, est-ce qu'on aurait la même attitude ou la même approche par rapport à Giroud ? Je ne suis pas sûr.
Mais il n'était pas là.
Oui, mais il sera là prochainement.
Eh ! C'est surtout de quoi parle-t-on? Indispensable au groupe France, on n'a pas dit indispensable à la place de Benzema, on n'a pas dit Giroud doit être titulaire. Et tu es indispensable à l'équipe de France. L'équipe de France, c'est pas que les 11 jusqu'à preuve du contraire qui débute le match.
Les mots ont un sens. La langue française est suffisamment importante pour utiliser.
Indispensable à l'équipe de France au mondial. L'équipe de France, on sait bien qu'elle va jouer avec plus de 11 joueurs et qu'il faudra plus que 11 joueurs pour.
Il n'est pas indispensable.
Mais le mot fort, c'est indispensable. Et c'est là-dessus que vous n'êtes pas d'accord.
Il faudra 23 joueurs indispensables pour le mondial. Évidemment. Il faudra 23 joueurs indispensables. Ils partent à 11.
C'est pas vrai.
Mais là, mais non, je joue pas du violon parce que justement, moi aussi ça m'énerve en fait. Pourquoi Giroud constamment Giroud s'est comparé à Benzema, Mbappé. Pourquoi on compare aux top players de l'équipe de France qui seront certainement titulaires
parce qu'eux sont indispensables.
Non, pas forcément.
Mbappé n'est pas indispensable à l'équipe de France.
Kanté ou Mbappé, qui est le plus indispensable? Pourquoi
les deux sont indispensables.
Non, mais alors à ce moment-là, si on veut mettre indispensable
deux titulaires, on met alors que Giroud n'est pas titulaire de l'équipe de France.
Non, Giroud n'est pas titulaire, mais Giroud est indispensable dans les 23. Giroud est indispensable dans les 23.
Mais Giroud, il a toujours été victime de faux procès. Il a une gueule de mannequin raté là. Il est victime de. Mais non, mais c'est délit de sale gueule.
C'est la première fois que j'entends.
Mais non, mais je suis désolé. C'est le grand échalas, faussement beau gosse.
Avant de le rendre indispensable, excusez-moi, il faudrait déjà qu'ils soient indispensables dans les clubs où il est passé.
Alors je vous épargne ceux qui sont encore en activité. Thierry Henry, Michel Platini, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Yuri Djorkaeff. Ça c'est les mecs en compagnie desquels il est dans le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.
Lequel de ces joueurs
a eu droit à un procès aussi dégueulasse que Giroud?
A-t-il inscrit en Coupe du Monde? Combien de buts a-t-il inscrit
en 2006, l'Italie, ils sont champions du monde, leur 9, c'est Luca Toni, il marque un but dans la compétition et pourtant c'est peut-être le meilleur avançant de la compétition. Il y en a ras-le-bol de la dictature des stats. T'as vu le match qu'il fait? L'Autriche, ils nous avaient battus, on n'avait pas réussi à les battre en Ligue des Champions. Mais arrêtez les bêtises! Le mec, c'est une légende du football français, que vous le vouliez ou non.
Grand joueur,
Benzema
bon joueur,
est revenu, il a gagné sa place. Et l'argument selon lequel on nous dit non mais attends, Deschamps, c'est invendable ce qu'il nous dit Deschamps avant le match, parce qu'en fait il sort déjà le parapluie au cas où Giroud nous ferait un match catastrophique contre l'Autriche. Il nous dit ouais, entre dire et faire, ok, il est d'accord pour être remplaçant de Benzema. Il est pas stupide Giroud, il sait que Benzema il va certainement être Ballon d'Or et que il marche sur l'eau et qu'effectivement il a pas la prétention de vouloir piquer la place de Benzema. Mais lui effectivement au crépuscule de sa carrière, il se dit moi j'ai envie de disputer un dernier mondial avec ces mecs. Évidemment.
Normal.
Et donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit moi je suis prêt à être le remplaçant de Benzema. Et qui doute de la sincérité de Giroud? Sauf que Deschamps il nous dit oui ok entre dire et faire il y a peut-être et moi j'attends de voir en gros mais comment tu veux que et Giroud en 2022 il a marqué autant de buts pour l'équipe de France que Ben Yedder dans toute sa carrière internationale. Mais vous m'expliquez que Giroud il va pas au Qatar et vous venez me m'expliquer qui vous mettez à la place de Giroud.
C'est pas le débat.
Moi je serais ravi
et je pense qu'il mériterait d'être dans le groupe des 23 pour la Coupe du Monde. Là il y a pas de problème. Je pense que Deschamps devrait le prendre. Mais de là à dire qu'il est indispensable à l'équipe de France, je ne pense pas qu'il soit indispensable. Regarde ses stats en Coupe du Monde. Il a marqué un but en deux phases finales de Coupe du Monde.
Qui a de meilleurs stats à part Mbappé et Benzema?
Oui, mais c'est ça. Mais tu demandes quoi à un attaquant en Coupe du Monde? Et le ballon qu'il donne contre l'Argentine à Mbappé pour aller mettre le 3-2? Mais ce ballon-là, il est primordial aussi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, oui, un attaquant lui demande de marquer, mais aussi, il a un rôle primordial aussi. Dos au but, il est extraordinaire, ce garçon. Il a un jeu
de terrain
incroyable.
Il est en réduit son jeu.
Mais
il a un Guivarch dans chaque orteil. Olivier Giroud, Guivarch, c'était un finisseur à l'ancienne. Le foot n'était pas exactement le même. Mais Olivier Giroud. Je suis désolé, moi j'étais pas un fan d'Arsenal, mais je veux dire, Arsène Wenger l'a quand même pris Arsenal. Wenger, c'est un gars qui aimait les attaquants, qui savent jouer au football quand même. Il a toujours été victime de stéréotypes. C'est un grand damné qui marque de la tête, Giroud. Voilà, il a été réduit à ça. Et c'est dégueulasse parce que c'est un joueur de football exceptionnel.
Et c'est ce que je te dis. Moi, je pense qu'il devrait être à la Coupe du Monde. Mais de là à dire qu'il est indispensable au succès de l'équipe de France, je ne le pense pas. Il sera dans un rôle de remplaçant. Peut-être qu'il rentrera de temps en temps. Mais
t'as vu ce qu'il fait quand il rentre 10 minutes, un quart d'heure?
Mais pas en Coupe du Monde, Simon. Jamais en Coupe du Monde.
Parce qu'il a disputé
deux Coupes du Monde. En 2014, il marque un but. Il fait 5 matchs, il marque un but.
D'accord, et en 2018, il était remplaçant. C'était nobody.
En 2018, il est titulaire et il marque pas un but.
D'accord, mais encore une fois, je te dis un avançant
qui marque des buts.
Tu fixes les défenses, tu fatigues les défenseurs, tu focalises l'attention, tu ouvres des brèches pour les fusées que tu as sur les côtés.
C'est ça, il va fixer
autre chose.
Il va fixer deux défenseurs derrière. Mbappé, il a un champ libre. T'as vu ce qui s'est passé encore contre l'Autriche? On dit ouais, mais c'est pas du tout il est plus relâché que quand il joue au Paris Saint-Germain. Mais non, quand le jeu de la tête, il va fixer deux défenseurs pour laisser le boulevard libre. Après derrière, oui, il a le champ tranquille, Mbappé.
Si t'avais le choix entre Benzema et Giroud, le plus indispensable équipe de France.
Mais non, il t'a expliqué, donc, Simon, il va être ballon d'or, Benzema
à l'attaque de l'équipe de France.
Donc on prend que deux attaquants. On prend Mbappé, Benzema,
les gars, revenons au point de départ. Le débat, c'est indispensable.
Dans l'équipe de France, il faut partir à 23.
Dans l'onde de débat, 24, il est pas indispensable.
Mais non, mais c'est pas ça, indispensable à l'équipe de France.
On t'a dit que moi, je suis entièrement d'accord qu'il participe à la Coupe du Monde. Mais de là à dire qu'il est indispensable, je suis pas d'accord.
Il est indispensable dans l'équipe.
On va marquer une petite pause.
Et il est capable de débloquer, débloquer des situations.
Il n'y a pas de pub, ne vous inquiétez
contre
pas.
Contre des petites équipes.
Vous avez affûté vos arguments pour ce premier round. Team indispensable, team pas indispensable. Mais oui, les mots ont un sens. Nous étions à 83% pour indispensable, 17% pour pas indispensable. Vous êtes des milliers à voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Nous sommes passés à 82-18.
Nous gagnons. Nous avons repris un point.
Vous commencez à avancer petit à petit. Peut-être que si nous terminons cette émission à 4h du matin, vous serez peut-être à 25%. Sait-on jamais. Pièce à conviction. Simon en a parlé pour poursuivre la discussion. Dans ce côté indispensable. Avant l'Autriche, Didier Deschamps dit ça.
N'interprétez pas, vous allez interpréter ce que je vais vous dire. Est-ce que je vous ai dit qu'il y serait pas ou qu'il y serait? Ni l'un ni l'autre. Faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d'y être. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence à tous les postes. Ben, forcément, même si je peux avoir un peu plus de marge, je pourrais aller jusqu'à 26, mais c'est pas mené 26 pour 26 aussi. Donc, tant mieux de ce qu'il a fait. Je sais qu'il est apprécié par le public, mais il l'a été aussi. C'est pas au détriment d'autres. J'aurai le temps de réfléchir avant de prendre mes décisions.
Dit-on ça d'un joueur indispensable?
Ah ben non.
Je ne sais pas. Mais je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Car après le match, Didier Deschamps dit ça sur Olivier Giroud.
Je sais ce qu'il est capable de faire. Il a des affinités avec certains joueurs plus que d'autres, mais bon, il a toujours eu un esprit collectif. Réponse, début novembre.
Il ménage encore le suspense pour un joueur soi-disant indispensable. On reprend le débat. Simon Dutin, qu'avez-vous à répondre?
Bah, il mange un peu son chapeau, Didier Deschamps, parce
non.
que il a
ah non,
voulu...
non, 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 bah, il mange pas son chapeau.
Bah, par rapport à la semaine
Deschamps,
dernière,
il est dans son rôle, il laisse une petite porte ouverte.
Parce que il a voulu partir sans Giroud. En gros, effectivement, il a été sincère avec Giroud. Non, mais il avait dit à Giroud, écoute, c'est terminé. Voilà, moi, je vais avancer. C'est Karim Benzema le titulaire. Et puis, je pense que t'as fait ton temps. Et je pense que Didier Deschamps, il est comme beaucoup de gens. Il a été ahuri par le niveau de performance que Giroud a su conserver.
Tu penses que là, il se dit maintenant, c'est bon, je vais le prendre?
Ah bah je pense que dans sa réflexion, il a forcément. C'est un pragmatique, hein, Deschamps. Il est pas stupide. Hein, il regarde les chiffres, il regarde les performances. Il se rend bien compte que non, mais l'autre, il arrive à Milan. On dit attends, regarde, il y a Zlatan, il y a les mecs et tout. Il les a tous réglés, hein, à Milan. C'est lui le patron maintenant. Hein, c'est lui qui plante dans les matchs décisifs. Il a toujours été décisif. Il était parti à Chelsea. Deschamps à l'époque avait dit attention, Chelsea c'est un grand club. Il y a beaucoup de concurrence. C'est peut-être pas bon pour l'équipe de France. Il avait marqué, je crois, un triplé en finale de Ligue Europa. Il est décisif partout où il passe. Il a fait poser un genou à terre à tous ses détracteurs. Tout le monde s'est retourné. Donc Deschamps, moi je pense que il avait vraiment, et d'ailleurs ses premières décisions allaient dans ce sens-là, l'intention de construire, d'évoluer vers un groupe sans Olivier Giroud, et qui se rend bien compte qu'il n'y a personne qui a été capable de prendre sa place. Il a rappelé Benzema, et Benzema, il est hors concours.
Attends, mais on peut changer d'avis en deux jours comme ça? Juste après un match? Mais on change d'avis?
Est-ce qu'il a vraiment changé d'avis?
Franchement, la dictature de l'opinion publique, quand 83% des Français te disent « Oui, il est indispensable, il faut à tout prix
le faire jouer ». Il s'en fout de
ça, je pense. Il est attentif, il écoute ce qu'on lui dit. Après, ce soir, le match le plus important, c'est ce soir face au Danemark, qui est quand même une équipe qu'on affrontera en Coupe du Monde, et qui met ce soir, il met un coup. Moi, j'ai hâte de voir ce que.
Mais justement, c'est le deuxième match, tu fais tourner parce qu'il a emmené des mecs, il faut leur donner du temps de jeu. C'est pour ça que moi, je pense.
Pas pour un dernier match de préparation à la Coupe du Monde. Beaucoup moins, quand même. Tu l'admettras.
Ouais. Je pense qu'il doit donner. Je pense que
le match le plus important
pour Deschamps, c'était le premier contre face l'Autriche. Après, pour le rassemblement, il a mis l'équipe la meilleure équipe qu'il avait à sa disposition, et je pense que ce soir il va essayer de faire un peu plaisir à tout le monde. D'autant plus que ça, ce sera un autre débat. C'est un adversaire qu'on va retrouver en Coupe du Monde. Quel intérêt t'aurais à mettre tes meilleures billes et à te découvrir un peu face à des mecs qu'on va retrouver en Coupe du Monde. Donc pourquoi pas faire jouer des joueurs, leur donner du temps de jeu, de l'expérience, et dire bon, les cocos, on se retrouvera à la Coupe du Monde, et ce sera autre chose.
Mais Deschamps va garder des portes ouvertes jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment de faire sa sélection définitive. Donc
pardon, mais je veux dire, Karim Benzema, sauf blessure, on sait qu'il sera à la Coupe du Monde.
Oui, bien sûr.
Et Olivier Giroud, avec son statut, avec ce qu'il est capable de faire, parce que là, je vous rejoins.
Aujourd'hui, on n'est pas sûr.
Et on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr.
Pardon, mais on ne peut pas dire qu'il est indispensable. Enfin,
c'est logique qu'on ne soit pas sûr. Et je me mets à la place de Deschamps. Il se garde une porte de sortie au cas où. Mais s'il trouve mieux, il prendra mieux.
Sauf que Deschamps, je pense qu'il a pris sa feuille. Au lieu de comparer Giroud à Benzema, il a fait Giroud, Nkunku et puis Ben Yedder. Il a fait plus, moins. Il a fait plus du côté de Giroud. Il a dit j'emmène Giroud. Voilà comment ça va se passer.
C'est comme ça que vous lisez votre Didier Deschamps, toi qui es fin médiatique.
Moi, je pense que Deschamps, il est dans son rôle de sélectionneur et il se garde des options et des portes de sortie jusqu'au dernier moment. Il est dans son rôle. Il n'a pas à écarter d'entrée de jeu Giroud avant que ce ne soit l'heure. Il se le garde en réserve, mais il ne l'utilisera que s'il n'a pas d'autre solution. S'il a mieux, il prendra mieux.
Il n'aura pas là-dessus. Mieux. C'est ça que
peut-être
je
qu'il n'aura pas mieux.
Il aura pas
mais
mieux.
Dans l'esprit de Deschamps, il peut aussi se dire je regarde, j'observe, je maintiens sous pression, j'ouvre une porte, il y a une petite éclaircie pour Giroud. Donc Giroud va donner ce qu'il a à donner. Et puis après, Deschamps va faire le bilan, l'arbitrage. Et quand il va avoir arbitré, ça tombera ou du bon côté ou du mauvais côté pour Giroud.
Ok, il nous fait du Didier Deschamps, Marc Madiot.
Sauf qu'à chaque fois qu'il rappelle Giroud, quand même, très souvent ça marque.
Très souvent. L'argument qui va peut-être faire mouche sur le buzzer de Cyril Marais.
Yes, is the Giroud.
Oui, on s'en souvient. On aime les supporters de l'équipe de France. C'est un reportage quotidien, ça, je crois.
Je crois, oui.
Avec pour savoir si les supporters de l'équipe de France parlaient anglais. Et yes. On lui pose une question, il répond yes, it's the Giroud. C'était magnifique. Alors, est-il indispensable au bleu? C'était notre bras de fer ce matin. J'ai le regret.
Ouais, on n'a pas. Non.
J'aime beaucoup Marc Madiot et Christophe Cessieux, c'est pas la question, mais j'ai le regret.
Surtout qu'on est des grands spécialistes de foot avec Marco quand même.
On est monté à 19
Non, vous êtes redescendu.
On est redescendu à 83-17. Ah. Donc c'est match nul en fait.
Oui, on est resté. Ouais, on a.
Vous avez colmaté
la brèche.
Exactement. Vous avez réussi.
Moi, je
tout de même.
Avec des arguments de Simon et Cyril, franchement, il serait à 95-5. Quoi.
Ouais, non, c'est, pas du c'est tout. Une victoire.
On a maintenu notre.
Vous avez fait une Christophe Laporte.
On peut
Bravo.
Faire une carrière politique parce que même en ayant un petit score, on arrive à gagner.
Bon, les copains, une information à vous donner, assez importante dans le monde du sport. Sachez que Kipchoge vient tout juste, il y a quelques secondes, de battre le record du monde du marathon. C'est à Berlin en 2 heures, 1 minute et 9 secondes. Je rappelle que Kipchoge a 38 ans, son précédent record,
il l'a fait.
C'était déjà lui, Kipchoge, avec 2 heures, 1 minute. Et 39 secondes, il vient.
Fait aussi, il avait pas battu la ouais, mais c'était dans un marathon avec.
Avec lui tout seul.
Avec lui tout seul, avec des
organisé par son équipementier, avec le faisceau laser, pour essayer de passer sous la barre des 2 heures.
Il avait réussi. Avec des lièvres qui
Mais c'est un record qui n'avait pas été homologué. Le précédent, 2h1min39s vient d'être battu, pulvérisé de 30 secondes. Kipchoge vient tout juste de battre le record du monde du marathon. C'était à Berlin, une ambiance absolument fantastique. On en reparlera cet après-midi sur RMC. 11h22, le moment que vous attendez fermement, comme tous les dimanches, autour de 11h30. C'était mieux avant, un moment d'histoire raconté par Christophe Cessieux. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport.
Adversaire très fort et très respectable sur le terrain.
9h midi.
Why do you think that Giroud is the best?
Yes, he's a Giroud.
Jean-Christophe Drouet.
Immense. Yes, it's a Giroud. En toute décontraction. Bravo, supporter des Bleus. Match ce soir, évidemment, à suivre en direct en intégralité sur RMC. L'avant-match à partir de 20h. Danemark-France, c'est le dernier match avant la Coupe du Monde, qui aura lieu dans moins de 2 mois maintenant, allez les Bleus, évidemment, pour ce dernier match face au Danemark que l'on retrouvera en phase de poule. 11h27, nous sommes toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Marc Madiot, Simon Dutin. Dans une dizaine de minutes, c'est à vous de jouer. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui s'est dit dans le studio RMC. Vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG du jour. Pour notre, et pour mon, c'est vrai, je dois bien le dire, pour mon plus grand plaisir. Mais pour l'heure, tous les dimanches à 11h30, Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les Amants français ressortent le grand jeu, Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
21 septembre 1948, il y a 74 ans, quasiment jour pour jour, Marcel Cerdan entre dans la lumière.
Ce 21 septembre 1948, au moment où la nuit tombe sur le Roosevelt Stadium, l'ambiance, elle, est surchauffée. Tout le gratin new-yorkais s'est donné rendez-vous à Jersey City, juste en face de la Statue de la Liberté, pour assister au premier championnat du monde de boxe organisé dans cette enceinte jusque-là réservée au baseball et aux Giants de Jersey City. Oui, car si le baseball est le sport collectif le plus prisé aux États-Unis à l'époque, ce que les Américains préfèrent par-dessus tout, c'est bien la boxe. Et en cette fin des années 40, le pays regorge de champions restés depuis dans la légende. Des stars nommées Ray Sugar Robinson, Rocky Graziano ou encore Joe Louis, le bombardier noir, roi des poids lourds. Mais ce soir, au Roosevelt, on vient pour voir Tony Zell, le nouveau champion du monde des moyens, tombeur de Graziano quelques mois plus tôt, démolir un Français nommé
Marcel.
Et il n'est pas du genre commode, ce Cerdan. Depuis 2 ans qu'il a découvert l'Amérique, il a rossé tous les champions qu'on lui a présentés, et pas des moindres. Marcel Junior, son fils, se souvient.
Il a pris Harold Green, 22 ans. C'était le futur champion du monde. Il y a cassé la carrière. Il a abandonné la boxe après ça. Il a donné les 10 combats, il a fait. Lui-même, il disait, j'ai pas fait 10 combats, j'ai fait 10 championnats du monde. Tous les types que j'ai rencontrés, c'était des champions du monde en puissance. Pourquoi on lui donne 10 combats à mon père avant de boxer champion du monde? Parce qu'on veut pas qu'il soit champion du monde. On veut pas qu'il prenne le titre. On sait qu'il va prendre le titre. Donc on lui donne des gens qui sont capables de le battre. Et malheureusement pour eux, mon père était plus fort qu'eux. Et il les a tous frappés.
Oui, Cerdan est un champion, un démolisseur au punch dévastateur et au palmarès impressionnant de 108 victoires en 110 combats disputés, dont 62 avant la limite. Du Maroc, d'où il est originaire, jusqu'à Paris, Rome, Barcelone ou Bruxelles, partout où le punch de Marcel passe, les dents ne repoussent jamais. Mais aujourd'hui, à 32 ans, Cerdan veut décrocher le Graal, cette ceinture mondiale des moyens dont il rêve depuis toujours et toute la France avec lui. Car chez nous, Marcel est une star qui fréquente le tout Paris, souvent accompagné d'une petite dame vêtue de noir nommée Edith Piaf. La vedette de la chanson devenue, 2 ans plus tôt, la maîtresse du boxeur. Depuis, Marcel assiste à tous les concerts de son amoureuse pendant qu'elle ferme les yeux lors des combats de son champion.
Nous avons autour du micro Edith Piaf qui est là et Marcel Cerdan qui signe des autographes. Edith Piaf, je voudrais que vous me disiez comment s'est passé votre séjour là-bas aux États-Unis.
Oh bah écoutez, vraiment, ça a été merveilleux. Le public américain m'a fait un accueil vraiment très touchant que je n'oublierai jamais.
Oui. Vous avez assisté au combat de Cerdan là-bas.
Oui.
Que pensez-vous de ce combat?
Bah écoutez, c'était bouleversant et merveilleux. Souvent, c'est terrible quand on a un copain de le voir se battre comme ça. C'est épouvantable.
Alors Marcel, Edith Piaf nous a parlé tout à l'heure de son combat. Alors je voudrais bien qu'il nous parle un petit peu d'elle.
Oh, elle est formidable, cette femme.
Elle est formidable.
Surtout à l'étranger, c'était, ils vont entendre chanter Edith Piaf, lever une salle américaine, c'est formidable.
Et en ce soir de septembre, Roosevelt Stadium, Edith est évidemment assise au premier rang, pas très loin de Georges Carpentier, premier boxeur français à avoir décroché un titre mondial 28 ans plus tôt dans la même ville, ou encore de Fernandel, la star du petit écran. De l'autre côté de l'Atlantique, on attend aussi l'événement avec ferveur et inquiétude. Le combat est retransmis à la radio, mais il va falloir veiller jusqu'à 3h du matin. Du coup, Jean Marais, Jean Cocteau, Marcel Thiel ou Mistinguette dînent au Lido sur les Champs-Élysées en attendant l'heure fatidique. Toute la France est désormais derrière son poste TSF, dont les ventes ont explosé depuis quelques semaines. Pierre Crenès est aux commentaires.
Allô, Pierre Crenès, nous vous entendons parfaitement.
Et voici la diffusion de la Marseillaise. Nous sommes à quelques secondes du début du match.
Et dès le début du combat, le bombardier marocain va faire honneur à son surnom, foulant de coups son adversaire, enchaînant direct, crochet, uppercut. Durant 10 rounds, Zell résiste tant bien que mal à l'avalanche de coups, mais à la 11e reprise, un terrible crochet du gauche du français arrive à la mâchoire de l'américain. C'en est trop pour Tony, l'homme d'acier s'écroule.
Et qui porte presque tout. Attaque de Cerdan par de très violence. Crochet du gauche, ça y est, Zell est au sol. Tony Zell a été touché et s'est affalé à genoux. Le match, par décision de l'arbitre, est terminé. Marcel Cerdan est champion du monde. Bravo Marcel.
The winner and new middleweight champion of the world, Marcel Cerdan.
C'est un instant extraordinaire. La police est montée sur le ring pour protéger Marcel, car tout le monde se précipite vers lui pour l'embrasser. Il est utile de vous dire...
Allô ? Allô, Pierre Crenet ? Allô, on ne vous entend plus !
Les auditeurs n'entendront pas la fin, peu importe. Ils sont déjà tous dans les rues de France et du Maroc pour fêter le roi Marcel, nouveau champion du monde de boxe. Et quelques jours plus tard, à sa descente d'avion à Orly, il est fêté comme un héros national dans une capitale française qui n'avait pas connu pareil liesse depuis 4 ans et la libération de Paris.
Le Français Marcel Cerdan, champion du monde, poids moyen, arrive à Orly. Dès qu'il a mis pied à terre, on le porte en triomphe vers la gare aérienne, envahi par une foule qui a voulu l'accueillir en grand triomphateur à son arrivée sur le sol français. Par centaines de milliers, les Parisiens apportent à celui qui a si brillamment défendu les couleurs françaises le salut populaire et enthousiaste avant que Marcel Cerdan ne connaisse la première réception officielle, celle de l'Hôtel de Ville de Paris.
Son ami Georges Hutin, préfet de la Seine et arbitre de boxe, se souvient de l'émotion du boxeur lors de ce retour triomphant.
Je le revois encore à la réception de l'Hôtel de Ville, impressionné par cette foule qui l'acclamait, me saisissant la main et les larmes aux yeux, me disant « c'est trop pour moi ». Marcel Cerdan a été un champion dans toute l'acception du terme.
Un champion qui, après avoir été décoré à l'Élysée, est ensuite sollicité par le cinéma qui lui offre son propre rôle dans un navet retraçant sa vie intitulé « L'homme au poing d'argile ».
Pour qui le maquilleur succède au soigneur est passé, oh pas pour longtemps, du ring au studio.
La vie est belle pour Marcel qui, durant 9 mois, profite de sa notoriété, de sa femme Marinette et de ses 3 enfants à qui il rend visite à Casablanca avant de vite rentrer à Paris, retrouver sa maîtresse adorée. Mais le devoir et le travail vont finir par le rattraper. En mai 49, un nouveau challenger est désigné. Son nom, Jack LaMotta, le fameux Raging Bull, un taureau italien plus connu pour s'être couché devant un adversaire sous les ordres de la mafia que pour ses qualités de boxeur. Le combat est prévu pour le 16 juin à Détroit, a priori une formalité pour Marcel. Mais les choses cette fois-ci ne vont pas tourner du bon côté. L'atmosphère est humide ce 16 juin dans la capitale de l'automobile. Le combat a lieu en plein air. Au moment d'entrer sur le ring, le sort se dérobe sous les pas du champion.
Come fly with me, let's float down to Peru.
Mon père, il prépare son combat contre Jack LaMotta. Il est au vestiaire et on avance le combat d'une demi-heure. On le prend à froid et il monte sur le ring à froid. Il glisse, il tombe. Et il se démet l'épaule. Pas l'épaule droite, malheureusement, l'épaule gauche. L'épaule où on se protège et où il peut frapper.
L'épaule gauche démise. Cerdan est incapable de sortir ses fameux crochets du gauche qui ont fait son succès durant 9 rounds. Le chat devient proie. La Motta se déchaîne contre un Cerdan rendu impuissant. À l'appel de la 10e reprise, Marcel renonce au combat et à sa ceinture. Pour la première fois en 114 combats, le bombardier marocain est battu, abattu même avant la limite. De sales rumeurs naîtront à la suite de cette défaite, évoquant un match arrangé avant une revanche déjà signée et prévue pour le mois de septembre au Madison Square Garden de New York. Une revanche repoussée au dernier moment, au 2 décembre, par le forfait du taureau du Bronx qui prétexte une blessure. Cerdan a prévu de partir en bateau autour du 5 novembre, mais quelques jours plus tôt, il reçoit un coup de téléphone d'Edith qui s'ennuie seul à New York. Le coup de fil du destin.
Mon père rentre le soir sur Paris. Dans la voiture, ils sont quatre. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit à mon père était en train de somnoler. Il lui dit à mon père, pourquoi tu pars maintenant? Pourquoi tu pars maintenant? Tu as le temps de partir. Alors mon père, il dit, mets la radio. Il met la radio et c'est Piaf qui chante. Il dit, ben voilà pourquoi je pars, pour elle, pour la rejoindre. Parce qu'elle lui avait écrit, elle lui avait dit, voilà, j'ai quelques jours de vacances. Au lieu de prendre ton bateau, viens, comme ça on peut passer quelques jours ensemble avant ton championnat du monde. Voilà, c'était ça.
Cerdan arrache 3 billets au dernier moment et embarque avec Joe Longman, son impresario et un autre ami pour le vol Air France du 27 octobre à 21h. La météo maussade oblige le commandant de bord du luxueux Constellation, l'avion des stars de Lockheed, à changer de plan de vol et à passer par le sud et les Açores plutôt que par le nord. Dans l'avion, l'ambiance est à la fête, les joyeux compères tapent le carton jusque tard dans la nuit. À 2h55, les îles portugaises sont en vue pour une escale. Le commandant discute avec la tour de contrôle quand soudain, le contact est rompu. Le lendemain matin, la planète entière apprend la terrible nouvelle.
Hélas, hélas, trois fois hélas, il n'y a maintenant plus de doute et aussi malheureusement plus d'espoir. Marcel Cerdan est bien mort. Une dernière dépêche de l'United Press, datée de Ponta Delgada, à 7h35, il y a seulement 10 minutes, nous apprend en effet que les corps de Marcel Cerdan et de la violoniste Ginette Neveu ont été identifiés. Il a fallu plus d'une demi-journée d'efforts à la première équipe de sauveteurs, hier, pour atteindre l'épave du Constellation d'Air France qui gisait au pied d'un précipice sur les pentes du Mont Redondo. Munie d'appareils de radio portatifs, cette équipe de sauveteurs a pu décrire au monde le spectacle effroyable qui s'offrait à leurs yeux. Aucun survivant. Des corps mutilés et carbonisés, éparpillés sur plus de 600 mètres.
Bah dis donc, t'en fais une
tête. Une nouvelle qui viendra cueillir à son réveil à la mi-journée à New York, scène poignante relatée dans le film La Môme avec Marion Cotillard dans le rôle de Piaf.
Quoi ?
L'avion s'est écrasé.
Marcel ! Marcel !
Sur nous peut s'effondrer.
Malgré la terrible nouvelle, Edith Piaf tiendra à monter sur scène le soir même au Versailles avant de craquer au moment d'entonner l'hymne à l'amour, cette chanson poignante et prémonitoire qu'elle avait écrite quelques mois plus tôt pour son beau champion. Mais Edith ne sera pas la seule accablée dans tout le pays. La stupeur et la tristesse s'empareront des cœurs. À 33 ans, disparaît ainsi au sommet de sa gloire celui qui, 72 ans après, est toujours considéré comme le plus grand boxeur français de l'histoire. Un homme, un héros, un mythe même qui par son talent, son histoire et son destin ont redonné sourire et fierté à un pays encore meurtri par la guerre. Sourire fugace qui, 4 ans après la fin des hostilités, disparaît ce 28 octobre 1949, quelque part au milieu de l'Atlantique.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais.
Merci beaucoup Christophe Cessieux pour cette histoire incroyable et dramatique de Marcel Cerdan. Vous avez écouté le récit de son histoire de champion, son histoire aussi amoureuse avec la grande Edith Piaf. Vous retenez quoi du récit de Christophe Cessieux? Je t'ai vu écouter très attentivement, mon cher Simon Dutin.
Oui, ces histoires de Marcel Cerdan, on a toujours entendu parler de lui, mais effectivement, il y a très peu d'images, rien que pour le... La voix de ses commentateurs, allô, on ne vous entend plus. c'est exceptionnel parce qu'effectivement c'est une époque où le sport convoquait, je pense, un peu plus l'imaginaire parce qu'il y avait la radio, il y avait très peu d'images, on pouvait pas revoir les images. Donc on avait le récit des quelques journalistes qui étaient sur place. Et puis, effectivement, à ce mythe se mêle cette histoire d'amour avec un autre mythe de la culture française. Donc ça dépasse le cadre du récit, du roman, du film. C'est vraiment, on est dans le mythe, quoi, la légende. Et j'ai appris plein de choses, effectivement. On pense connaître les histoires, mais on les connaît pas bien. Donc
Exactement, et c'est aussi pour ça que Christophe nous raconte ça, parce que oui, Marcel Cerdan, le grand champion de boxe, oui, Marcel Cerdan, Edith Piaf, mais...
Parce qu'il y était, lui, il a eu la chance. Il a eu cette chance, lui.
Il était tout jeune journaliste.
C'était Georges Crenès, en fait, c'était mon nom de scène.
C'était toi.
Marc, je sais que tu aimes ces histoires.
Ouais, j'aime beaucoup, mais ça fait partie de notre patrimoine, de notre vécu, de notre histoire à tous en France, et puis... Je pense que c'est ces moments qui sont rentrés dans notre panthéon sont bonifiés avec le temps, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une telle abondance et une telle consommation d'informations, d'événements. On en est dans les punchlines, mais vous voyez, tout à l'heure on parlait de choses qui sont bien
futiles
et médiocres par rapport à une histoire comme celle-là, par exemple. Donc vous voyez, le monde a changé, pas toujours en bien, et l'évolution du sport et la consommation de sport fait qu'aujourd'hui on ne s'arrête plus sur des moments aussi intenses que l'histoire de Cerdan. Et je crois que le temps rattrape les situations et permet de garder en mémoire ces instants-là. Et on a souvent des moments où on dit « Oh là 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 là, ça va rester dans l'histoire et tout », puis 15 jours après, on s'en rappelle.
Ça remet les choses à leur place.
Voilà.
Tu as bien raison. Cyril Marais.
Non, mais je remercie vraiment Christophe de nous avoir conté cette fabuleuse histoire, parce que pour moi, ça restait le gymnase de Levallois Perret, là où je m'entraînais, Marcel Cerdan.
Mais oui, mais tu as raison. Sûr, voilà, attends, mais tu as raison.
C'est ce que je voulais dire, c'est générationnel. Et bien sûr, ça reste aujourd'hui un très très grand champion de la boxe française. Et on retient vraiment ce personnage et l'histoire avec, bien entendu, cette chanteuse incroyable qui est Patricia Cass. Voilà, c'est des moments.
Patricia Cass. Voilà, il y a un acte manqué là.
Putain, en plus, maman m'écoute. En plus, je suis vraiment désolé, maman. Tu vois, en plus, Edith Piaf t'adore. Ouais. En plus, j'étais jugé ce matin. J'ai dit à ma mère que j'étais au GG. C'est la première fois que je disais. Donc, tu vois, c'est un peu la pression.
Ah bah écoute, on l'embrasse.
Edith Piaf, bien entendu.
Excellent.
Mais voilà, non, c'est incroyable, tout simplement. C'est des histoires qu'il faut garder, qu'il faut continuer de compter, et c'est important.
Et on embrasse évidemment Patricia Cass, et on rassure sa famille, elle n'a pas été avec Marcel Cerdan.
Ça va.
Je crois pas.
Oh, elle est belle. Simon.
Le Valois-Perret.
Mais j'ai cru que c'est une blague. C'est pour ça.
Tu vas faire ton petit marché juste à côté du gymnase?
Non, je ne suis plus à Levallois depuis un petit moment. Ah. J'ai fait 8 saisons.
D'accord.
Il y avait une grande salle de boxe à Levallois à une époque.
C'est ça.
Bien sûr.
Beaucoup de combats.
Il y a beaucoup de combats. Bah oui, il y a toujours. Valgani était un dingue de boxe. Ouais, il organisait
aussi un critérium cycliste. Enfin,
il organisait plein de trucs.
Avec les anciens champions.
Alors là, on vient de tourner.
Cerdan, Valgani.
On fera pas un C'était mieux avant avec Valgani, ça c'est promis. 11h44, on se retrouve dans quelques instants. Sachez que tous les C'était mieux avant sont disponibles en podcast et c'est absolument magnifique. Et il y aura une énorme surprise pour la semaine prochaine. On la dévoile ou pas?
C'est toi
qui décides.
Oui. Je vais m'intéresser en fait à toutes les GG. Je vais raconter leurs histoires petit à petit. Un jour, Marc, je croquerai ton histoire. Ah. Ton histoire dans Paris-Roubaix, par exemple. La semaine prochaine, je vais m'intéresser à Marion Bartoli.
Voilà, qui sera là avec nous en plus.
Exactement, cette victoire à Wimbledon en 2013. Je vais vous raconter l'histoire, parce que c'est une histoire incroyable, celle de Marion quand même.
Exactement.
Enfin, Et à tout de suite,
sur RMC, c'est à vous de jouer maintenant, le 32-16, les auditeurs. Vous venez pour la castagne avec une GG.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Tu es grand, tu es très grand aujourd'hui.
Jean-Christophe Drouet.
Oh oui, il est grand, vous êtes grand aujourd'hui, mes GG. Marc Madiot, Cyril Marais, Simon Dutin, Christophe Cessieux. Il est 11h48, à partir de midi, les paris RMC autour de la rencontre entre le Danemark et la France. Dernier match avant la Coupe du Monde, match de Ligue des Nations. Restez bien avec nous, avec toute la Dream Team des paris. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs, dans les GG.
RMC, les grandes gueules du sport. Et vous?
Vous n'êtes pas d'accord, c'est très simple. Vous prenez votre combiné. Ça se dit encore combiné d'ailleurs, plus trop, hein? Combiné, ça se dit. Marc, tu le dis encore? Je prends mon combiné?
Non.
Ah ouais, si toi tu le dis pas, c'est que je suis vraiment ringard. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 32-16 et vous venez vous expliquer avec oui, avec le fil et tout ça, tu sais le fil sympa.
Le cadran là.
Oui, bref, c'est un une image que vous n'avez certainement plus. Bref, Baudouin nous appelle au 32-16. Bonjour Baudouin.
Salut les GG.
Baudouin, tu veux t'attaquer à qui ?
Salut.
Je crois que c'est Simon tout à l'heure avec qui j'étais pas franchement d'accord au sujet de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar.
Ok, t'écoute.
Je suis pas d'accord en disant qu'on prend les auditeurs en otage en leur faisant un espèce de chantage. Je pense au contraire que maintenant notre carte bleue et du coup notre audimat ont bien plus d'impact que notre carte électorale. Et on a le pouvoir, en éteignant la télé ou en regardant autre chose, de faire un flop à cette Coupe du Monde qui est une honte. Et je fais partie de ceux qui disent que c'est une honte depuis plus de 10 ans, parce que je suis pas d'accord. Elle a été attribuée en plus, et il y a des soupçons de corruption phénoménaux. Climatiquement, c'est une catastrophe et on va jouer au foot sur des cadavres. Alors nous, il nous reste plus que la solution de zapper cette Coupe du Monde. On ne peut pas le demander par contre aux footballeurs, parce que c'est leur métier, c'est leur graal, et ce serait injuste de leur demander de boycotter la Coupe du Monde. Qu'ils la jouent, si on a la chance de la gagner, on les applaudira au retour en France, mais moi je ne regarderai pas un match, et pourtant, franchement, j'aime le foot. Mais je ne peux pas cautionner et donner du pognon grâce à mon audimat et aux pubs qui sont vendus derrière à cette Coupe du Monde. Voilà ce que j'avais à dire.
Bah, c'était très clair, la réponse de Simon dans quelques instants. Je précise, c'était le débat de 9h. Excellent débat si vous voulez aller l'écouter en podcast, où nous parlions de l'engagement de cette équipe de France, des Bleus qui ont été interpellés par Amnesty International, voilà, qui se plaignaient du silence radio de la part de la FFF et des joueurs de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde au Qatar. Simon Dutin.
Moi, j'entends tout à fait, Baudouin, ta position. Je me suis interrogé moi-même, comme beaucoup de gens, faut-il la regarder? Nous, on est journalistes. Faut-il la couvrir? Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que je considère que c'est une posture et que, au-delà de l'impact absolument nul qu'aura le boycott des gens visiblement qui ont une conscience politique aussi développée que la tienne, à ce moment-là, d'accord, hein, mais on arrête d'acheter à ses enfants ou même pour soi des baskets ou des sweatshirts d'une grande marque américaine qui sont confectionnés par des Ouïghours martyrisés par le régime chinois. Enfin, je veux dire, on arrête l'hypocrisie, on arrête de regarder les Jeux Olympiques qui sont sponsorisés sous l'égide de l'universalisme du sport par des marques de soda qui entraînent l'obésité et qui font crever des gens toute à longueur d'année. Donc à ce moment-là, je veux dire, il y a énormément de choses. Il n'y a pas que la Coupe du Monde au Qatar, c'est une partie visible de l'iceberg. Le Qatar, il est stigmatisé pour beaucoup de choses et dans beaucoup de cas à juste titre. Mais je trouve qu'il y a une hypocrisie parce que là, on se tourne vers le Qatar. Il y a quand même énormément d'autres choses à faire tout au long de l'année et depuis de nombreuses années. Ça n'enlève rien aux critiques qui sont formulées à l'endroit du Qatar. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire et qu'on entend beaucoup moins les gens sur d'autres problèmes au moins aussi graves.
Baudouin.
Alors, je suis en partie d'accord. Et en même temps, quand est-ce qu'on va commencer? Il faut commencer. On a attribué les Jeux Olympiques à des endroits qui n'auraient jamais dû les accueillir.
Et je suis d'accord, on l'a souvent dit dans cette émission.
Oui, et c'est le pognon hein, derrière. Hein. Les idéaux du sport, ça fait bien longtemps qu'ils sont simplement un vecteur pour faire du pognon. Mais à un moment donné, il faut qu'on commence. Et effectivement, je te rejoins, on n'a pas besoin d'acheter des pompes à 200 balles qui coûtent 1 euro à la fabrication sur le dos de pauvres enfants. Je suis d'accord, mais commençons. Et là où je dis merci le Qatar, c'est peut-être que grâce à eux, on va avoir un déclic. Parce que je suis anti-Coupe du Monde au Qatar, mais peut-être que grâce à l'idiotie qui est aussi la nôtre d'avoir accordé la Coupe du Monde en plein hiver, eh ben, peut-être qu'on va avoir un déclic et il faut que ça commence. C'est hyper tard. Enfin, vous voyez bien le dérèglement qu'on est en train de vivre. Alors, il y a un dérèglement, il y a un réchauffement, il y a je sais pas quoi. Il se passe des choses. Et il est peut-être temps qu'on ait un impact un peu plus positif, ne serait-ce qu'entre nous, êtres humains. On peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change et c'est peut-être le Qatar la Coupe du Monde au Qatar qui va déclencher ce changement.
Merci d'être, venu le dire, Baudouin, ce matin dans les grandes gueules du sport. C'était très clair et c'est une position évidemment qui se respecte et qui a voix au chapitre dans cette émission. Merci, Baudouin, et merci de ta fidélité et à bientôt sur RMC. Tariq nous appelle également pour un sujet beaucoup plus léger. Bonjour, Tariq.
Bonjour tout le monde, salut les amis.
Alors, plus léger, oui, mais ça n'empêche pas la castagne. Tu vas affronter qui ?
Christophe.
Aïe, qu'est-ce que j'ai fait encore ?
Quel sujet ?
Giroud, Olivier Giroud.
Ça y est.
Moi, je suis de l'avis que Olivier Giroud est devenu indispensable pour être dans le groupe. Je dis bien pour être dans le groupe, non pas titulaire. Déjà parce que pendant le temps où il n'a pas été appelé, tous les numéros 9 qui ont été testés, que ça soit Ben Yedder, Lacazette et j'en passe, ils n'ont pas donné satisfaction. Et j'ai entendu quelques arguments comme quoi peut-être Olivier Giroud n'avait pas marqué lors de la Coupe du Monde 2018, mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, il a marqué. En 2016, on va en finale, il marque aussi. On a un petit peu l'impression qu'il fait tâche dans le top, dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France.
Deuxième.
Moi, que chasse David Trezeguet. Il a marqué un but, certes, hyper important lors de la finale de l'Euro 2000, mais il a marqué qu'un seul but en compétition officielle. Pourtant, il n'a pas été remis en question plus que ça. Donc moi, pour moi, c'est plus un délit de sale gueule un petit peu avec Olivier Giroud. Et pour moi, surtout, son profil est très important parce que aucun autre attaquant n'a son profil, que ça soit une entrée en jeu sur un match difficile, il pourrait te dépanner. Demain, il suffit qu'il te manque juste un Mbappé ou un Benzema. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux changer de système, tu peux jouer à deux avec deux attaquants. Donc pour moi, il est vraiment indispensable dans le groupe. Après, en tant que titulaire, ça c'est autre chose. Mais dans le groupe, pour moi, il faut l'amener.
Bravo, okay. Tariq.
le bravo de Simon Dutin, Christophe.
Oui, non, mais comme je disais tout à l'heure, moi je pense que Didier Deschamps devrait l'amener. Mais la question c'était, est-ce qu'il est indispensable? Est-ce que c'est ce garçon-là qui va te permettre de gagner la Coupe du Monde? Peut-être, on ne sait pas. Je
ne
dis pas dans les boules de cristal, mais voilà,
moi je suis
pas convaincu. Après, comme remplaçant. Mais est-ce qu'un remplaçant est indispensable? Peut-être, je ne sais pas.
Ouais. Ok, on terminera là-dessus. Merci beaucoup Tariq d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC.
Les remplaçants sont indispensables. Hein. Je me bats dans cette rédaction pour le faire comprendre.
Simon Dutin est indispensable. On pourrait se poser cette question aussi dans les grandes gueules du sport. Merci Simon d'avoir été avec nous. Cyril Marais, Marc Madio, Christophe Cessieux, un grand merci à vous. Je voudrais aussi remercier évidemment Geoffrey Charpille à la production, Alban Azaïs à la réalisation et Bernard Laporte à qui veut gagner des millions. On se retrouve tout de suite pour les paris RMC et ne manquez pas le rendez-vous à 19h Bartoli Time avec Christophe Laporte, deuxième des mondiaux. Il sera notre invité. Allez, à tout de suite sur RMC.